Comme tu veux. D'accord. Ok. En fait, j'avais à cœur ce matin de parler sur la foi et j'aimerais qu'on puisse faire une application pratique juste après le message. Donc, depuis plusieurs dimanches, hein, on demande à l'équipe de l'espace guérison de demander au Seigneur s'il y a des paroles de connaissance et tout ça. Mais cette semaine, ça n'a pas été fait. Donc, ce n'est pas trop tard. Si pendant la louange ou pendant le message, vous avez reçu ou vous recevez pour les quelques-uns qui font ça, hein, des paroles de connaissance, que ce soit à propos de la guérison ou à propos d'autres choses, des choses que le Seigneur veut faire ce matin, ben, il y aura un petit temps après le message où vous pourrez donner ces paroles s'il y en a, hein, vous manifestez à ce moment-là. Et puis, voilà, on mettra en pratique, les gens autour prieront pour ces personnes. Voilà. Donc en fait, je voulais parler de la foi parce qu'il y a, depuis longtemps un verset qui me parle beaucoup. Hein. C'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Et la vie éternelle, ben, c'est la vie du royaume de Dieu. Donc ça veut dire une vie... parfaite, une vie sans maladie, sans problème financier, sans tout ce qui peut nous ennuyer. Et quand je lisais ce verset, pendant des années, je me suis dit, mais dans le fond, c'est ma faute si je suis encore embêtée avec, j'ai eu pendant des années des problèmes de dos, hein, c'est ma faute si je suis embêtée avec ces problèmes de dos physiquement, il n'y avait pas vraiment de raison. J'avais fait des examens médicaux, des radios, tout ça. J'étais allé voir le kiné. Le kiné lui-même disait, mais il n'y a pas de raison. Vous ne devriez pas avoir ces problèmes-là, quoi. Ces douleurs-là, il n'y a pas de raison physiquement. Alors, il ne comprenait pas pourquoi j'avais ça. Et pourtant, c'était bien réel. Alors, je me disais, moi, bah, que c'était ma faute, quoi. Que je n'avais pas assez de foi pour croire à la guérison de ces problèmes de dos. Hein, je me tapais dessus, voilà. Et donc quand je lisais « Combat le bon combat de la foi », eh ben, j'avais l'impression que c'était ma responsabilité. Et voilà, je me sentais coupable de ne pas avoir assez de foi, pour moi-même, pour ma famille qui n'est pas chrétienne, et voilà, qui l'était encore moins à cette époque-là, pour des tas de choses. J'avais l'impression de ne pas avoir assez de foi et que c'était de ma faute, quelque part. Et bon, ces dernières années, le Seigneur a beaucoup travaillé ça, hein, parce que c'est le temps où il veut justement qu'on puisse sortir, aller à l'extérieur et exercer notre foi pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Et pour ça, ben, il a besoin d'abord de travailler nos cœurs, de nous remettre les idées en place par rapport à ça. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années, et donc ce matin, je voulais vous partager un petit peu tout ça. Hein. La foi, donc, c'est essentiel. Hein. Après la guérison du boiteux au temple, hein, quand Pierre a fait lever le boiteux et qu'il s'est mis à marcher, eh bien, Pierre a témoigné à la foule autour en disant, donc c'est dans Actes, chapitre 3, verset 16, c'est par la foi en son nom, donc au nom de Jésus, hein, il parlait de Jésus avant, que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. Les gens savaient très bien que cet homme était incapable de marcher, qu'il était assis, parce que bon, boiteux, c'était plus que ça, il était handicapé en fait, il ne pouvait pas marcher. Hein. Il était assis à la porte du temple pour mendier parce qu'il était incapable de marcher. Hein. Donc les gens le savaient très bien. Et donc Pierre dit que c'est par la foi en le nom de Jésus, hein, au nom de Jésus, c'est la foi en Jésus, mais en fait la vraie traduction littérale, c'est pas la foi en Jésus, c'est la foi qui vient par Jésus. Petit truc déjà. Donc qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Donc c'est la foi qui vient par Jésus qui a permis au boiteux d'être guéri. Est-ce que c'est la foi du boiteux ? Ben non. Lui, il croyait simplement que les apôtres allaient lui donner de l'argent, c'est tout. Il ne s'attendait pas du tout à une guérison. Est-ce que c'est la foi de Pierre, etc. ? Oui, d'accord, mais c'est la foi qui vient par Jésus. Donc on va voir ensuite. Alors qu'est-ce que c'est la foi ? Ben, on sait, hein, c'est croire que Dieu veut et peut, les deux, parce que s'il veut mais qu'il ne peut pas, ben, ça ne marcherait pas. Et s'il peut mais qu'il ne veut pas, ça ne marcherait pas non plus. Donc il veut et peut faire pour nous, en nous et au travers de nous, au travers de nous aussi, ce qu'il promet dans sa parole. Et ce qu'il promet dans sa parole, ben, c'est justement la vie éternelle, la vie du royaume de Dieu. Donc c'est croire la parole de Dieu plus que tout ce qui pourrait venir contre, tout ce qui est la réalité de ce monde, les symptômes physiques qu'on peut ressentir ou qui peuvent revenir alors qu'on avait déjà été guéri de ça et ça revient et on ne comprend pas pourquoi ça revient. Et voilà. Donc c'est croire la parole de Dieu plus que tout ça. Et pour savoir ce que c'est que la foi, vraiment, ben, il y a un verset clé que vous connaissez tous, hein, c'est Hébreux 11, verset 1. Alors celui-là, c'est bien peut-être qu'on le... Oui, voilà. Hébreux 11, verset 1, c'est bien... Je ne sais pas si tu vas suivre, parce qu'il y a beaucoup de versets, hein, mais bon. Mais Hébreux 11, 1, c'est important. Donc la foi, c'est... Alors, moi, j'ai la garantie, et là, vous avez la ferme assurance, oui, parce qu'en fait, garantie, le mot grec, c'est hypostasis, ou je ne sais pas trop comment on prononce, c'est-à-dire ce qui a une réelle existence, la substance, ou donc la ferme assurance, que ça existe vraiment. Donc, la garantie, la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire que l'espérance devient une assurance. C'est beaucoup plus fort. Et ensuite, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et là aussi, la démonstration, c'est plus que simplement essayer de prouver, c'est vraiment la conviction, être persuadé de celle qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des réalités qu'on ne voit pas. Dans la Bible anglaise, j'aime beaucoup prendre les Bibles anglaises parce que souvent les traductions sont un peu plus littérales et plus proches du vrai texte biblique. En français, souvent on a édulcoré, on a, voilà. En anglais, c'est souvent plus clair. Donc dans la Bible anglaise, il est dit être sûr de ce qu'on espère, certain de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et le mot hypostasis, hein, pour garantie ou assurance, ferme assurance des choses qu'on espère, c'est aussi utilisé dans un autre passage, dans Hébreux 1, verset 3, qui parle de Jésus, hein, et qui dit « Ce Fils qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte, donc l'empreinte c'est justement hypostasis, l'empreinte de son être. » Et l'empreinte, en anglais, toujours dans la Bible anglaise, Holy Bible, c'est l'exacte représentation. L'exacte représentation de Dieu. Donc, hypostasis, le fait d'avoir la foi, d'être sûr de ce qu'on ne voit pas, hein, que la parole de Dieu dit vrai en dépit de ce qu'on voit, eh bien, c'est l'empreinte, c'est-à-dire l'exacte représentation de qui Dieu est, de la gloire de Dieu. Quand vous regardez dans un miroir, si vous n'êtes pas devant le miroir, vous ne verrez rien dans le miroir, il n'y aura pas de reflet. Une empreinte de pas, c'est pareil. Si vous ne marchez pas, il n'y aura pas d'empreinte de pas. Donc s'il y a l'empreinte ou le reflet dans le miroir, c'est qu'il y a une réalité qui existe, qui est vraiment là. Sinon, il n'y aurait pas d'empreinte ou il n'y aurait pas de reflet. Donc même si cette réalité, on ne la voit pas, c'est une réalité spirituelle et elle est vraiment là. La gloire de Dieu, c'est une réalité spirituelle, même si elle n'est pas forcément... visible sur la terre tout de suite, quoi. Et donc, la foi, eh ben, c'est en fait l'empreinte, c'est d'être sûr de cette réalité, de voir l'empreinte avec les yeux spirituels. C'est ça, la foi. Et donc, notre foi, eh ben, elle témoigne de cette réalité spirituelle. Donc c'est la faculté de percevoir l'invisible, de percevoir avec nos sens spirituels ce qui n'est pas visible à nos sens humains, à nos sens physiques. De saisir des réalités spirituelles qui ne sont pas visibles dans le physique, dans la vie terrestre. Et donc nos sens physiques nous permettent de saisir des choses qui existent dans le monde physique, hein, et ils ne servent qu'à ce moment-là, hein, on ne peut pas entendre quelque chose avec nos oreilles physiques si ça n'existe pas, voilà, s'il n'y a pas un vrai bruit dans le monde physique, même chose pour la vue, pour les autres sens. Eh bien, la foi, c'est un sens spirituel qui nous met en relation avec les réalités spirituelles, et donc ça nous permet de percevoir des impressions, des empreintes produites par des choses éternelles, par la gloire de Dieu. Donc des choses qu'on ne peut pas ressentir avec nos sens physiques, mais qui existent dans le monde spirituel, et que donc notre foi peut manifester, peut nous permettre de percevoir et de manifester. Et donc la foi va transformer notre espérance, l'espérance que la parole de Dieu est vraie, en certitude. Et ce n'est pas quelque chose de vague, ce n'est pas une assurance vague. Oui, d'accord, je sais que Dieu peut guérir, mais je sais que Dieu peut guérir ce problème-là particulier, ce problème de santé-là particulier, même si pendant des années, je n'ai pas vu la guérison, ou même si voilà, je croyais être guérie et les symptômes sont revenus, etc. Hein. Quand j'ai été guérie de mes problèmes de dos, ok, c'était en une fois, mais après, les symptômes sont revenus. Il a fallu que je renonce à croire ces symptômes plus que ce que je croyais de la parole de Dieu, quoi. Voilà, donc c'est une assurance précise que Dieu peut vraiment faire tel et tel miracle, parce qu'il n'y a pas que la guérison, hein, faire tel ou tel miracle dans notre vie, faire venir des choses qui n'existent pas encore dans le monde physique, mais qui sont déjà des réalités spirituelles. Oui. Alors, quand il est dit aussi la démonstration ou la preuve convaincante des réalités invisibles, ce qui est la foi, hein, en grec toujours, c'est elekos, qui signifie convaincre. Et c'est le même mot qui est utilisé pour dire que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement dans Jean 16, 8. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous convainc au travers de la foi. Et c'est le même mot aussi qui est utilisé pour dire que la parole de Dieu est vivante et efficace, là, pour nous convaincre. C'est le même mot elekos ou elekko. Voilà. Donc c'est en fait l'Esprit Saint et la parole de Dieu qui nous donnent cette conviction, cette foi. C'est pas à nous à la produire. Alors d'où vient la foi exactement? Eh bien, c'est dit aussi clairement, dans Hébreux 12, verset 1, donc c'est après le chapitre 11, hein, autrement dit, bon, Paul a déjà parlé de tous les héros de la foi, et puis ensuite, il a voulu préciser ce que c'était que la foi. Hein. Hébreux 12, verset 1, les yeux fixés sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et dans la Holy Bible, au lieu de dire suscite la foi, ils disent l'auteur de notre foi. Et je préfère ça. Hein. C'est Jésus qui produit en nous la foi. Mais Jésus, en fait, il est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui produit en nous la foi. Et c'est dit aussi clairement dans Romains 10, verset 17. Alors là, je vais vous donner la traduction Holy Bible. La foi vient du fait d'écouter le message, et le message se trouve dans la parole de Dieu ou dans la parole de Christ. La foi vient d'écouter le message, et le message se trouve dans la parole de Dieu ou dans la parole de Christ. Donc la foi vient d'écouter la parole de Christ. Ça peut être écouter un message qui est donné à l'Église, mais ça peut être aussi écouter ce que l'Esprit nous dit, ce que Jésus nous dit au travers de l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous rappelle tout ce que Jésus nous dit au travers de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu tout seul, tout à coup un verset nous saute et puis on a un réma, une révélation de la parole de Dieu. Eh bien voilà, ça aussi ça va produire la foi. Donc la foi c'est vraiment pour tous. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 et 9, il est dit « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donné pour l'utilité commune. Donc il est parlé de tous les dons de l'esprit, et parmi ces dons de l'esprit, un autre, la foi par le même esprit. Donc la foi, c'est un don de l'esprit. Ça vient de l'esprit, c'est pas à nous à la produire. Notre responsabilité, c'est juste d'écouter la parole de Dieu et de prendre en considération ce qu'elle nous dit, quoi, et de la laisser agir en nous. Et c'est elle qui va produire la foi. C'est à chacun, hein, puisque dans Romains 12, verset 3, il est dit « Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie ». Donc on a tous reçu de la foi de la part de Jésus, de la part du Saint-Esprit. On a tous reçu suffisamment de foi, la mesure de foi nécessaire pour pouvoir faire ce que Dieu attend qu'on fasse. Dieu ne va pas nous demander de faire des choses impossibles. Donc s'il nous demande quelque chose, s'il nous demande de prier pour quelqu'un pour que tel miracle se produise, eh bien il nous donne la foi en conséquence. C'est aussi simple que ça. Donc dans Éphésiens 2, 8, il est dit aussi, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, et sauvés, c'est le mot shalom qui veut dire plus que sauvés, en fait, c'est la paix, la guérison, la plénitude, hein, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi, c'est pas quelque chose qu'on doit produire en nous, c'est le don de Dieu. Elle tire son origine de Dieu, de sa parole, de son esprit. Ça ne sert à rien de la chercher en nous-mêmes, de se demander « mais est-ce que j'ai assez de foi pour faire ça ou ça ?» Ben, tu sauras si tu as assez de foi quand tu le feras, simplement. Si tu te lances, ben Dieu est fidèle pour te donner la foi pour que ça marche quelque part. Voilà. Et on le voit bien avec les premiers disciples. Hein. Jésus les avait envoyés deux par deux pour guérir des malades, chasser des démons, etc. Ils sont revenus, ils n'en revenaient pas. Les esprits nous sont soumis en ton nom. Ils n'en revenaient pas. Ils disaient à Jésus, mais voilà, ils ne s'y attendaient pas à ce que ça marche comme ça. Parce que justement, ce n'était pas eux qui devaient faire l'effort, mais ils ont cru ce que Jésus avait dit, ils ont obéi, ils y sont allés. Et ils ont vu l'action de Dieu. Et après, ils n'en revenaient pas, quoi. Donc, c'est un peu comme pour le pardon. Hein. Quelquefois, des personnes ont du mal à pardonner parce qu'elles se disent « mais il faut que je le ressente, quoi. Si je dis que je pardonne et que mes sentiments ne sont pas avec, eh ben, je suis hypocrite. » Ben non, c'est dire à son âme « tais-toi, mon âme, je veux pardonner, je décide de pardonner. » Je ne t'écoute pas, j'écoute pas le ressentiment que tu peux avoir envers cette personne ou cette situation. Je décide de pardonner et ensuite les sentiments s'alignent. Et le pardon est vraiment efficace. Ben pour la foi, c'est pareil. Quelquefois, on doit dire à notre âme, mon âme, tais-toi, toutes ces choses-là, non, tu n'es pas capable, non, ça n'a pas marché, donc ça ne va pas marcher. Et puis, est-ce que Dieu veut vraiment que je sois guérie, ou est-ce que Dieu veut vraiment que j'ai ce travail ou un autre travail, etc. Toutes ces choses-là, il faut quelquefois dire à notre âme, ben, non, mon âme, tais-toi, je décide d'obéir à Dieu. Et là, la foi est honorée, quoi. Alors, il y a tout un chemin que la foi parcourt. On a déjà vu qu'elle naît avec la parole de Dieu. Hein. C'est quand Dieu parle, soit par une révélation qu'on reçoit directement, un réma, ou bien quand on écoute la parole de Dieu et qu'on commence à cogiter à partir de ça, la parole de Dieu produit la foi en nous. Ce qui fait qu'on croit dans son cœur. Et c'est le verset d'Éphésiens 1, 18 qui le dit, hein, il le dit comme une prière, mais en fait, on croit dans notre cœur, c'est-à-dire que la parole de Dieu illumine les yeux de notre cœur, nous donne cette vision spirituelle. Hein. On voit l'empreinte de la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'image physique de la réalité spirituelle, que Dieu non seulement est puissant, mais qu'il nous aime, qu'il veut nous faire du bien, qu'il veut... qui veut répandre sa parole, qui veut faire tout ce qu'il veut faire, quoi. Et donc, à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour vivifier la semence de foi qui a été déposée dans notre cœur par la parole de Dieu, pour faire qu'elle produise du fruit. Donc la parole de Dieu a donné une semence de foi, on croit dans notre cœur, le Saint-Esprit travaille en nous pour vivifier cette parole, et peu à peu, la foi grandit, se fortifie. Mais notre première responsabilité, ça a été d'abord d'écouter la parole de Dieu, vraiment, en étant prêt à la recevoir et à la mettre en pratique, hein. La recevoir vraiment en tant que parole de Dieu et pas juste en tant que bon conseil, voilà, hein. Et c'est 1 Thessaloniciens 2, verset 13 qui nous dit ça, hein. Notre première responsabilité, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit. Notre deuxième responsabilité, une fois que la foi a été produite et qu'elle commence à grandir en nous, eh bien, elle grandira si la parole de Dieu demeure dans notre cœur. Si on s'empresse d'oublier ce qui nous a été dit, elle ne pourra pas grandir. Donc notre deuxième responsabilité, c'est faire que la parole de Dieu demeure en nous. C'est-à-dire, c'est garder la parole. Se souvenir, par exemple, d'une parole prophétique qu'on a reçue, qui paraissait complètement impossible à l'époque. Hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu vas aller à l'autre bout du monde faire telle ou telle chose, alors que voilà, j'ai pas l'argent, j'ai pas la disponibilité, etc. Enfin, bref, il peut y avoir plein d'obstacles physiques. Voilà, se souvenir qu'on a reçu ça et... bon, c'est sûr qu'en général, quand c'est des choses comme ça, il y a quand même d'autres confirmations. Hein. Ce n'est pas juste une parole. Hein. Mais surtout quand c'est une parole prophétique, hein. Il y a des confirmations. Donc, se souvenir de ce qu'on a reçu et puis le croire. Croire que même si ça ne s'accomplit pas tout de suite, ça va s'accomplir. Laisser au Saint-Esprit le fait de faire grandir notre foi. Et notre foi, elle grandit, elle se fortifie. Donc la grâce, c'est la main de Dieu qui donne le salut, la guérison, qui donne voilà, le fait de trouver un travail, le fait que des personnes de notre famille soient sauvées, hein, se convertissent, ou que des personnes dans la rue qu'on rencontre, à qui on témoigne, soient sauvées, etc. Et la foi, eh ben, c'est notre réponse. Donc la grâce, c'est la main de Dieu qui donne, la foi, c'est notre main qui prend le cadeau, qui le saisit, qui se l'approprie. Qui l'utilise. Et ainsi, ben, la réalité spirituelle devient une réalité physique. Alors, j'ai fait un schéma pour... voilà, donc la foi, Dieu parle, révélation, réma ou écoute de la parole de Dieu. La foi est produite au travers de la parole de Dieu. Notre première responsabilité, c'est d'écouter cette parole de Dieu et de la recevoir en tant que parole de Dieu, vraiment. Ensuite, on croit dans son cœur. La parole de Dieu illumine les yeux de notre cœur. On voit l'image ou l'empreinte de la réalité spirituelle. C'est une preuve convaincante. Et pendant ce temps-là, ben, le Saint-Esprit vivifie cette semence de foi, la rend vraiment agissante. La foi grandit, se fortifie. Et alors ? Au travers de notre deuxième responsabilité, hein, c'est de garder la parole. Et la grâce, la main de Dieu qui donne, la foi, notre main qui saisit, qui se l'approprie. Et c'est ça qui produit le salut, la guérison et toutes les bénédictions liées au salut. Et parfois, quand c'est nécessaire, ben le Saint-Esprit peut donner une mesure de foi encore plus grande. C'est ce que les dons de l'Esprit, elle a, appelle le don de foi. Ça peut être encore plus grand. Mais pour tous les chrétiens, il y a la mesure de foi nécessaire pour ce qu'on est amené à faire. Et s'il y a besoin de plus, eh bien, il y a le don de foi qui est encore rajouté. Voilà. Alors, c'est la foi de qui ? Ça peut être la foi du malade lui-même. Bon, là, je parle beaucoup de la guérison parce que c'est beaucoup dans ce domaine que j'ai travaillé ça. Mais voilà, ça peut être dans d'autres domaines aussi. Ça peut être la foi de la personne elle-même. Jésus a dit à plusieurs personnes, ta foi t'a guéri. Mais ça peut être aussi d'autres personnes. Il y a un paralytique qui a dû être descendu par le toit d'une case là pour aller jusque Jésus. C'est pas le paralytique peut-être qui croyait, mais en tout cas ses amis, ils avaient la foi nécessaire pour faire ça. Donc c'est la foi de ces personnes qui a permis au paralytique d'être guéri. Et ça peut être aussi la foi de celui qui prie. Et remarquez que dans le Nouveau Testament, chaque fois que Jésus reprend quelqu'un en disant « tu as manqué de foi », c'est pas la personne qui était malade ou qui avait un problème hein, qu'il reprenait. C'était la personne qui avait prié pour l'autre. Et puis ça peut être aussi la foi communautaire. C'est ce qu'on vit dans, ici, dans la grande salle, chaque fois qu'on a espace guérison. C'est ce qu'on vit aussi dans les tabernacles. Il y a des moments où la présence de Dieu est tellement forte que ben, ça produit la foi. Et puis la parole de Dieu est proclamée par le chant, la louange, etc. Ça produit la foi. Et puis, c'est surtout la foi de Dieu. Le Marc 11, 22, une traduction littérale, c'est pas « ayez foi en Dieu », comme j'ai dans ma Bible à moi, mais c'est « ayez la foi de Dieu ». Et c'est pas par nos propres forces, encore une fois, c'est Dieu qui nous donne sa foi. C'est-à-dire qu'il sait très bien qui il est, ce qu'il peut faire, et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on le croit et qu'on mette en pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que saisir la guérison ou saisir une autre bénédiction liée au salut par la foi? Eh bien, c'est les deux premières choses vont ensemble. C'est croire que Dieu veut et peut guérir cette maladie spécifique ou ce problème physique ou psychologique, psychique, spécifique ou spirituel, spécifique. Et ça va avec connaître la parole de Dieu pour savoir que Dieu peut vraiment et veut aussi, que Dieu est bon, qu'il veut guérir. Et pour prier en accord avec la parole de Dieu. Ensuite, c'est être net devant Dieu, pour pouvoir lui demander avec assurance. Il y a 1 Jean 3, versets 21 et 22, qui nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Donc ça veut dire que peut-être quelquefois, on doit renoncer à certaines pensées qu'on a et qui nous empêchent d'exercer notre foi. Du genre, tu es incapable de, voilà, de quoi tu te mêles, de prier pour un tel ou un tel. Si tu demandais à quelqu'un d'autre de prier, ben, ce serait sûrement plus efficace, ou, etc. etc. Quelquefois, on a à demander pardon à Dieu et à recevoir le pardon pour ses pensées, à y renoncer. Et alors la foi peut vraiment être agissante en nous et au travers de nous. Et ça peut être instantané, hein. Il n'y a pas besoin de demander pardon pendant des heures et des heures, hein. C'est instantané. C'est reconnaître simplement, ben oui, je pensais ça, j'ai vraiment tort, je renonce à ces pensées et je décide de croire que tu veux agir au travers de moi et puis on se lance, quoi. Ensuite, c'est lui demander en croyant qu'il nous écoute vraiment. Ça, c'est aussi dans 1 Jean. Jean, j'aime beaucoup l'apôtre Jean parce qu'il donne des conseils très concrets. Donc, 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, auprès de Jésus. Et une autre traduction dit quand nous nous approchons de lui, quand nous nous approchons de Jésus. L'assurance qu'il nous donne quand on est en contact avec Jésus, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Voilà. Et l'étape suivante, c'est de croire qu'on a vraiment reçu ce qu'on a demandé. Et ça, c'est dit aussi dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et puis, proclamez, confessez ce qu'on croit. Romains 10, verset 10. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. C'est déjà pas mal. Mais en confessant de la bouche, on parvient à la guérison ou au salut. Ou à toutes les bénédictions liées au salut. Et puis, c'est continuer à proclamer, même si la guérison ne se concrétise pas tout de suite, ou si les symptômes reviennent, etc. Et ça, c'est aussi dit dans la parole, Hébreux 4, verset 14, « Tenons fermement la confession de notre foi. » Ce n'est pas juste le proclamer une fois, quelquefois. C'est là, en fait, le combat de la foi. Ce n'est pas combattre pour essayer de produire la foi. C'est combattre pour refuser toutes les pensées qui vont nous faire, quelque part, négliger la foi et puis enterrer la semence et elle ne produit pas de fruits parce qu'elle est enterrée trop profond, toutes ces choses. Donc, tenir fermement la confession de notre foi, c'est proclamer pas comme quelque chose de magique, mais parce que la parole est créatrice. Et notre parole aussi, on est créé à l'image de Dieu, notre parole est aussi créatrice. Notre parole, elle peut produire des choses mauvaises, voilà, mais elle peut aussi produire des bonnes choses. Elle peut aussi produire des réalités spirituelles. Donc notre parole est créatrice et on peut voilà, saisir ce que dit la parole de Dieu. Dieu est le créateur, ben, il peut redresser une colonne vertébrale qui est déformée, il peut créer du cartilage là où il n'y en a plus, il peut recréer quelque chose qui a disparu. J'ai entendu parler en Afrique, par exemple, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de médecins et d'hôpitaux et tout ça en Afrique. Des fois, ils doivent faire des kilomètres et des kilomètres et ce n'est pas possible pour aller à l'hôpital ou pour se faire soigner. Ils n'ont pas de médicaments. Donc, forcément, ils dépendent beaucoup plus de Dieu, de l'action directe de Dieu. Donc, du coup, ils ont développé beaucoup plus leur foi dans ce domaine. Voilà, ils en avaient besoin, c'était crucial pour eux. Ben, j'ai entendu parler de dents qui repoussaient, de toutes sortes de choses, d'os même qui repoussaient, ou, voilà, toutes sortes de choses. Voilà, Dieu est le Dieu créateur, donc on peut appeler à l'existence les choses qui ne sont pas dans le monde physique, parce que ce sont des réalités spirituelles, que Dieu est le Dieu créateur et qu'il est bon, qu'il veut nous faire du bien. Et puis, continuer à rester ferme, c'est-à-dire maintenir une attitude mentale juste. Et c'est là qu'il y a le combat de la foi. Et dans ce combat de la foi, c'est souvent important de ne pas rester seul. Si on est isolé avec nos problèmes auxquels on fait face et qui nous dépassent, et voilà, eh ben on peut vite être découragé. Parce que l'ennemi, il connaît bien sur quel point faible il doit appuyer pour nous faire renoncer à telle ou telle guérison ou bénédiction de la part de Dieu, quoi. Nous faire croire que c'est pas possible, ou que voilà, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. L'ennemi est doué pour ça. Donc on a souvent besoin des autres. C'est souvent beaucoup plus facile de croire, d'avoir la foi pour les autres que pour nous-mêmes. Souvent, on est humain, hein. J'ai entendu beaucoup de personnes dire ça. Donc c'est important de se tenir ensemble quelquefois, d'oser aller voir quelqu'un de confiance et puis de lui partager le problème et puis de prier avec cette personne ou d'accepter que la personne prie pour nous, hein, ou d'accepter que plusieurs personnes prient pour nous. Voilà. Et puis prie même avec persévérance, ça peut être quelquefois un combat de longue haleine, hein. Donc d'accepter que les personnes continuent à prier pour nous régulièrement, régulièrement, régulièrement. Donc c'est vrai que ça demande quelquefois de l'humilité, hein. On aimerait bien parfois résoudre nos problèmes tout seul, quoi, hein. Moi donc j'avais été guérie des allergies, hein. Il y a, je sais plus, 3-4 ans, je ne sais plus exactement. Enfin, il y a quelques années, j'avais été guérie des allergies. Et puis cette année, c'est revenu plus fort que jamais. Pendant au moins 15 jours, je me suis battue toute seule. Et franchement, ça ne marchait pas, quoi. Donc le matin, je prenais position par rapport aux allergies. Je rappelais à ce qui provoque cette allergie qu'elle n'avait aucun droit sur mon corps, etc. Voilà, les symptômes disparaissaient. Et dans la journée, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Et je ne pouvais pas toujours m'isoler pour reprendre position à haute voix, etc. Donc, bon, jusqu'à ce que j'en ai eu assez. Et puis, à un espace guérison, j'ai demandé à une sœur de prier avec moi. Eh bien, ça a été recta. Hein. Dès le lendemain, j'ai vu la différence. J'ai pris à nouveau position. J'ai dû prendre à nouveau position. Mais ça a été beaucoup mieux dans la journée. Le jour après, encore mieux, etc. etc. Et finalement, ben, ça y est, c'est bon, quoi. Hein. Donc, c'est... Voilà, quelquefois, on a besoin des autres et il faut se rendre compte que Dieu aime qu'on fonctionne ensemble parce qu'on est un corps aussi. Et il aime qu'on puisse dépendre les uns des autres aussi. C'est le corps de Christ, Christ tout entier, c'est pas nous seulement, c'est tous les autres chrétiens, d'accord ? Donc quelquefois, il aime qu'on fonctionne ensemble. Voilà. Donc, oui, restez ferme. Donc il est parlé du doute aussi dans Marc 11, verset 23, hein, à propos du fait de si quelqu'un a une petite semence de foi, C'est aussi, ça n'a pas besoin d'être grand. Hein. Si quelqu'un a la foi comme un grain de moutarde, hein, et qu'il ne doute pas dans son cœur. Alors ça aussi, ça m'a souvent... Oh là là, mais moi, j'étais en proie au doute tout le temps. Ça m'a souvent, comment dire, découragée, quoi. Ben, s'il ne faut pas douter, ben, je ne risque pas de le voir les choses arriver parce que je suis tout le temps en train d'avoir des pensées de doute et tout ça. Mais ce n'est pas avoir des pensées de doute, ne pas douter dans son cœur. C'est ne pas entretenir ces pensées de doute. Et c'est tout à fait différent. Avoir les pensées de doute, ça nous arrive à tous, parce qu'on est humain. Mais c'est ne pas entretenir ces pensées de doute. Il y a un serviteur de Dieu qui disait quelque chose que j'aimais beaucoup, parce que c'est très visuel. On ne peut pas empêcher les oiseaux de se poser sur nos têtes. Et les oiseaux, ça représente les pensées. Hein. On ne peut pas empêcher les pensées mauvaises, les pensées de doute, les pensées d'incapacité, les pensées de tout ça, de venir dans notre tête. On ne peut pas l'empêcher, mais on peut simplement empêcher les oiseaux de faire leur nid dans leur tête. Donc on peut empêcher les pensées mauvaises de s'enraciner dans notre tête en simplement les refusant. Hein? Donc ça fait partie de refuser les mensonges. Et si c'est quelque chose qui est trop dur pour nous, surtout au début, hein, eh ben on demande l'aide de frères et sœurs, et ils le font avec nous. Et ils nous soutiennent là-dedans. Autant de temps qu'il y a besoin pour que le combat soit vraiment gagné. Et c'est ça aussi le combat de la foi. Donc on a l'exemple, donc oui, le verset de Marc 11, 23, hein, dit donc, si quelqu'un a une semence de foi toute petite, comme un grain de moutarde, c'est vraiment tout petit petit, c'est la plus petite des graines, je crois, hein, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit en la réalisation de ce qu'il dit, cela lui sera accordé. Voilà, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, donc pour ça il faut avoir voilà, il faut avoir la semence de foi, hein. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit, donc s'il ne doute pas, c'est-à-dire s'il n'entretient pas de doute en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, eh bien il le verra s'accomplir. Même si ce n'est pas toujours instantané, mais il le verra s'accomplir. Et là, on a l'exemple d'Abraham. C'est expliqué dans Romains 4, versets 18 à 22. Romains 4, versets 18 à 22. Oui, Abraham, donc espérant contre toute espérance. Parce qu'Abraham, il avait, je crois, Abraham avait environ 100 ans. Et Sarah avait environ 90 ans. Donc voilà, il ne pouvait plus avoir d'enfant humainement, c'était impossible. Hein. Il crut, espérant contre toute espérance humaine, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité ». Dieu lui avait promis une postérité, et pas seulement spirituelle, hein, une postérité physique aussi. Eh bien, Abraham l'a cru. Et c'est arrivé. C'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé des années après, mais c'est arrivé. Et dans la Holy Bible, il a mis Abraham à considérer les faits, mais il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Et a été fortifié dans sa foi, et il a donné gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Donc c'est le fait de refuser le doute, de décider de croire la parole de Dieu plus que ce qu'on voit ou ce qu'on ressent physiquement, voilà, plus que ce que nos sens physiques nous disent, de croire la parole de Dieu davantage, plus, eh bien ça fortifie notre foi et notre foi grandit et elle devient efficace. Et puis ensuite, ben, y a aussi le fait d'agir conformément à notre confession de foi. C'est toujours l'exemple d'Abraham. Hein. Abraham, il n'a pas seulement cru, il a donné gloire à Dieu, il a agi et ça s'est produit. Hein. Et c'est dit aussi dans Jacques, hein, Jacques est aussi quelqu'un de très pratique. Jacques, chapitre 2, versets 21 à 23. Alors toujours dans la Holy Bible. Hein. Enfin, bon, tu peux projeter une autre version, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc Jacques dit justement que la foi sans les œuvres, sans le fait d'agir conformément à sa foi, eh ben, elle est stérile, elle ne va rien produire de concret. Hein. Je vais peut-être voir ce que Jacques dit exactement. Ah, d'accord. C'est pas... C'est Jacques 2... Ah non, pardon. C'est Jacques 2, verset 22. Voilà. Tu vois, sa foi et ses actes agités ensemble. Voilà. Alors, la Holy Bible dit, tu vois que sa foi et ses actes travaillaient ensemble et sa foi a été rendue parfaite par ce qu'il a fait. Voilà. Et puis, voilà, la dernière étape, c'est de louer Dieu. Psaume 18, verset 4. Et c'est bien connu, hein, on le chante aussi. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ce n'est pas non plus quelque chose de magique, là, mais c'est tout simplement, je m'écris, loué soit l'Éternel, c'est-à-dire je fixe mes yeux sur qui est Dieu. Et forcément, ça produit la louange, le fait d'avoir envie de le louer, de l'adorer. Hein. Donc je détourne mes yeux de ce que je vois dans le physique ou des symptômes que je ressens et je les fixe sur Dieu, sur qui est Dieu et sur qui est Jésus. Et c'est ça qui me délivre de mes ennemis, y compris les maladies, les problèmes physiques ou psychiques, etc. Hein. Et donc une bonne nouvelle pour conclure tout ça, on n'a pas besoin de se demander si on a assez de foi pour faire telle ou telle chose, parce que si on devait se demander ça, c'est ce que je me suis souvent demandé, eh ben, le diable, il a beau jeu, hein, c'est l'accusateur, il a beau jeu de nous persuader qu'on n'a pas assez de foi. Hein. Mais Jésus a dit que, d'une part, il suffisait d'avoir une foi comme un grain de moutarde, une toute petite graine pour déplacer une montagne, déjà, hein. Parce que si on se sert de la petite graine en question, si on la met en terre, si on proclame qu'elle est efficace, eh ben elle le sera. Hein. Et d'autre part, la promesse de Dieu, c'est aussi que pour chacune des œuvres qu'on a à faire, des choses qu'on a à faire, des positions de foi qu'on a à prendre, eh bien, Dieu nous a donné déjà la mesure de foi nécessaire à chacun. Et que s'il y a besoin de plus, eh ben, le don de foi rajoute encore ce qu'il y a besoin. Donc c'est lui qui produit la foi. Nous, on a simplement à la mettre en pratique. Et c'est comme un muscle. Hein. Plus on va l'exercer, plus il va être fort, plus il va être, voilà, il va être vite chaud et vite prêt à travailler, quoi, à produire ce qu'il a à produire. Hein. Et puis c'est aussi comme un entraînement physique. Quand on le fait à plusieurs, c'est plus facile aussi, quoi. Parce qu'on s'encourage mutuellement, on se motive mutuellement, voilà. Voilà, donc je vous propose une mise en pratique s'il y a eu des paroles reçues. Est-ce qu'il y en a eu des paroles de connaissance reçues pendant le message ou non? On n'a pas eu? Bon. Bon. C'est pas grave. Donc voilà, à vous de mettre en pratique ce message par la suite. Et puis, oui, on compte vraiment sur le Saint-Esprit pour nous aider à exercer ce muscle de la foi, hein, et nous préparer à ce qui vient. Hein. Un petit sujet de prière que je donne à toute l'Église, hein, quand même, c'est que, normalement, samedi prochain, on est plusieurs à sortir dans les rues de Guebwiller à nouveau pour prier pour la guérison des gens, en ayant reçu d'avance ce que Dieu voulait faire. Donc, s'il vous plaît, soutenez-nous dans la prière.
Merci. En tout cas, merci pour ce message. J'ai appris des choses et d'autres que je connaissais m'ont été rappelées. Ça fait du bien de rappeler certaines choses. Ça a fermé un peu la... la foi qu'on a, et puis ça nous permet un peu de savoir où on en est et ce qu'il nous reste à faire. Ah oui, Carlo. Je suis désolé, vas-y, viens. Nous parler de ton super dessin.
Merci. Oui, super, je sais pas, j'ai pas vraiment eu le temps de le finir. Mais en fait, il y a un verset qui m'avait parlé, c'est le Proverbe 20, verset 7. Le juste marche dans l'intégrité, heureux ses enfants après lui. Et oui, tu peux, oui, si tu veux. Et ce verset m'a parlé donc sur deux plans. C'est un sujet assez vaste, mais en tant que parent, les enfants, ils ont tendance à suivre en fait les parents en bas âge. Bon, par la suite, c'est sûr que l'aboutissement, c'est qu'ils prennent leur autonomie, leur envol. Mais un petit enfant, alors encore faut-il que les parents soient présents, mais il va avoir tendance, même s'il vit des choses très difficiles. Enfin, je sais que même les enfants que j'accompagne, des fois, ils vivent des choses difficiles, mais quand ils voient leurs parents, ils les suivent, ils marchent derrière. Et du coup, c'est un encouragement pour les parents à marcher dans... Si on marche dans la justice, les enfants suivent derrière. Et c'est une bénédiction pour eux, parce que du coup, ils sont écartés des dangers. Et en même temps, du coup, ça parle aussi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que du coup on n'est pas seul et qu'il y a Dieu qui est devant. Et parce qu'en fait l'image que j'ai eue, c'était un petit peu du coup une sorte d'aventurier qui débroussaillait dans la jungle, et il y avait les petits enfants qui passaient derrière, et ils étaient du coup en sécurité parce que voilà, il y avait le père qui était devant qui chassait les dangers. Et voilà, bon, autant en encouragement en tant que parent terrestre et en tant qu'enfant de Dieu.
Yes. Encore un exemple de tous les dons que Dieu a mis dans l'église. Ben, il est midi. C'est ouf, hein.